7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle du choix du prénom.
Ni hao.
Ayou bovan, sabah al khair.
Dobri den.
Dobri den.
On dit salam alaikum.
Salam alaikum.
À votre avis, quand on arrive dans un nouveau pays, est-ce que c'est facile?
Il va falloir s'intégrer dans notre nouvelle patrie.
Alors du coup, dans ma famille, il y a des mecs qui s'appellent Magloire, Majoie, bienvenue.
Comment tu t'appelles déjà?
Mon nom de baptême, c'est Benjamin Buford Blue. Mais tout le monde m'appelle Booba.
Bon, on essaie encore une fois. Nom et prénom.
Je m'appelle Edouard.
C'est un prénom inventé.
Ici 7 milliards de voisins, bienvenue.
Et vous, quel prénom portez-vous? Vous vous souvenez peut-être de la polémique qui a agité les réseaux sociaux il y a quelques mois quand l'essayiste Éric Zemmour a lancé à l'entrepreneuse française Absa Toussi, votre mère aurait dû vous appeler Corinne. Au-delà du caractère parfaitement humiliant, antipathique d'accuser une personne de ne pas porter, entre guillemets, le bon prénom, ça pose une question de fond. Comment choisit-on le prénom de son enfant? Comment le prénom influence une partie de ce que nous sommes, malgré nous? En France, depuis 1993, les parents jouissent d'une grande liberté pour choisir le prénom de leur enfant. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de prénoms recensés. Alors, peut-on être discriminé à cause de son prénom? Les voisins, est-ce que vous portez un prénom étranger ou peut-être d'une autre communauté que la vôtre? Est-ce compliqué ou est-ce une force? Ou peut-être un prénom tout simplement bizarre? Racontez-nous, 33 1 84 22 71 71. On va en discuter avec nos invités. Marie-Odile Merniac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes généalogiste, auteur de 365 prénoms expliqués aux éditions du Chêne. Baptiste Coulmont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, spécialiste des prénoms à l'université Paris 8. Sociologue des sociologies des prénoms, c'est le titre de votre dernier ouvrage aux éditions La Découverte, sociologie des prénoms. On est en ligne également avec Anne-Laure Cellier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialisée en psychologie sociale et auteur de Le pouvoir des prénoms qui est paru chez Larousse. Vous êtes également professeur à HEC Paris. Merci d'être en ligne avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Sur Facebook, Diderot au Cameroun nous dit qu'il porte un prénom étranger, que ça ne le dérange pas. Mon prénom, nous dit Diderot, est pour moi une source de motivation parce que je me dis que si mes parents me l'ont donné, c'est peut-être parce qu'ils voulaient que je sois comme celui qu'il portait, grand philosophe français du XVIIIe siècle, qui d'ailleurs, ce n'était pas son prénom. Hein, il s'appelait Denis, hein, le grand Diderot. Denis Diderot, mais lui, en tout cas, il porte donc finalement le patronyme d'un homme célèbre et parfois poursuit notre auditeur. Dans mes travaux intellectuels, j'ai envie de me décourager, mais dès que je me souviens du prénom que je porte, je comprends que je dois l'assumer, l'incarner et le justifier. Voilà, bah c'est le choix de l'universalisme hein, finalement. Eddy à Lubumbashi dans le sud de la RDC. Nous les Africains, nous avons hérité de prénoms étrangers qui sont à mon avis un héritage prestigieux car ils enrichissent, embellissent notre identité. Moi je suis fière de mon prénom Eddy. Un message aussi d'une voisine sur WhatsApp.
Bonjour les voisins, bonjour Emmanuel Bastide. Je suis africaine, précisément du Bénin Togo. Le choix du prénom ne se fait jamais par hasard dans nos cultures. Choisir un prénom, c'est pratiquement choisir la destinée de votre enfant. Ça a toujours une signification. C'est la rencontre de l'Afrique avec l'Occident qui fait que maintenant on donne n'importe quel prénom sans se demander quelle est la circonstance dans laquelle l'enfant est né. Moi, on m'appelle Dovi. Dovi, dans notre culture, c'est celle ou celui qui vient juste après les jumeaux ou vient après celui ou celle qui vient après les jumeaux. Moi, comme je dis, je suis vraiment contente d'avoir mon prénom Dovi, bien que j'ai deux prénoms occidentaux après. Mais c'est ce que je suis. Le prénom, c'est ce que je suis. Pourquoi vais-je porter les bagages d'autrui sur la tête? Je vois par exemple des gens chez moi qui sont déjà descendants des Portugais, des esclaves affranchis, donc qui ont perdu leur nom d'origine. Donc c'est des de Souza Francisca. Cette personne va au Portugal, on s'attend peut-être à voir une Portugaise. Mais non, c'est une négresse qui arrive, quoi. Donc voilà. Non, non, non. Moi, je tiens à ce qu'on donne nos prénoms C'est ce qu'on est. On ne renie pas ce qu'on est. Je ne vais pas renier qui je suis pour faire plaisir à Éric Zemmour. Merci.
Bonjour les voisins. Moi, c'est Ousmane, depuis Burkina Faso. Chez nous, ici, les noms sont donnés en fonction des religions. Musulmans, chrétiens, donc souvent on voit le nom Ousmane, Moussa, Josepha. Étymologiquement, les parents donnent les noms sans se soucier du sens. Soit parce que le grand-père porte le nom Moussa, on le donne à son petit-fils, à son hommage. Et moi, c'est grâce à l'émission que j'ai fait des recherches sur le sens de mon nom Ousmane. Et j'ai trouvé que cela voulait dire jeune dragon ou jeune serpent. Mais je savais que c'était le nom du troisième calife du prophète. Bonne journée à tous les voisins.
Bonjour les voisins, bonjour les voisines. Avant en Afrique, précisément au Tchad, l'enfant est nommé avec l'authenticité du village, avec le nom du village. Mais après, dans les années 2000, tout le monde est en train de chercher le nom qui le plaît. Souvent, ils prennent les noms arabes, les noms soudanais, les noms turcs. Ceux qui sont dans le nord du pays, au lieu qu'ils donnent les noms de Ouardougou, de Sidi et autres, ils sont revenus à donner les noms de Souria, Samira, Ikhlas. Donc, c'est les noms arabes. Même chez les sidistes, avant, c'est les Jim et les Jimadoum et autres. Maintenant, on les nomme les noms de calendrier, soit les noms importés de l'Occident. Donc, cette authenticité du prénom, d'ici peu de temps, ça va disparaître, comme je vois précisément au Tchad.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Intéressant ces témoignages et ces points de vue. L'authenticité du prénom va disparaître. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Odile Merniak? De quoi ça témoigne, surtout déjà, de se poser ce type de questions? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, un prénom authentique, d'ailleurs?
Oui, un prénom authentique, en fait, chacun utilise ce terme si le prénom, pour lui, est rattaché à sa culture et je dirais presque plus à sa famille. C'est qu'il a une histoire familiale. Il y a ceux qui évoquent le prénom donné par le grand-père. La signification dans la langue d'origine du prénom joue aussi. C'est ce qu'évoquait aussi une des voisines qui intervenait. Voilà, l'authenticité, elle se traduit à travers ce portage familial et ce portage culturel. Ensuite, comme le dit un des auditeurs, les gens bougent. Les gens ont parfois envie aussi d'être multiculturels et puis d'associer plusieurs significations et plusieurs noms. Après tout, on en a plusieurs aussi à l'état civil.
Baptiste Coulmont, aujourd'hui, la question du prénom, elle est finalement au cœur de démondialisation.
Et oui, puis on l'a vu dans les commentaires, hein, c'est un espace de lutte. Ils étaient tous là à dire que, bon, ils avaient un certain prénom, mais que les autres donnaient quand même des mauvais prénoms. Donc on voit bien qu'il a été, il est pris dans des questions politiques et des questions de goût plus larges que les individus eux-mêmes. Certains font référence à l'authenticité, d'autres à la religion, d'autres à l'histoire, à l'esclavage. Et donc c'est certains, on est tous convaincus que l'on va faire le bon choix et convaincus que les autres ont fait un mauvais choix.
Et il y a des phénomènes de mode, que ce soit au Tchad ou en France, pas forcément les mêmes phénomènes de mode d'ailleurs. Anne-Laure Cellier, que vous évoquez, vous, ces témoignages qu'on vient d'entendre?
Oui, je rejoins tout à fait Marie-Odile et Baptiste dans leur analyse. Pour moi, ce qui est frappant, c'est cette tension entre, d'une part, un prénom qui va être un héritage du passé, et une signification et donc une perception d'authenticité qui est ancrée dans le passé, et la réalité du prénom qui, elle, est quotidienne et qui est actuelle. Et donc, ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est une espèce d'explosion entre ce que le prénom signifie dans le passé pour l'individu et dans sa vie de tous les jours.
Alors, tout de même, je le disais en introduction, on n'a jamais eu autant d'une telle diversité de prénoms en France. Il faut dire que la loi de 1993 en France donne énormément de liberté aux parents. L'officier d'état civil peut saisir le procureur au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant si les parents vont trop loin dans l'imagination, c'est cela, Baptiste Coulmont?
Oui, mais il est obligé d'inscrire le choix des parents à l'état civil. Et il peut dire, ah, il y a peut-être un problème. Et donc, il saisit le procureur. Mais les procureurs à qui j'ai parlé, ils me disent qu'ils ont trop de travail pour s'occuper de questions comme ça quand les deux parents sont d'accord. D'autant plus que l'expérience que les procureurs ont et que le juge, la juge souvent, le juge aux affaires familiales, après avoir audiencé les parents, s'aperçoit du caractère
qui n'est pas
possible.
Le choix n'étant pas malveillant, c'est ça. Il ne faut pas que ce soit un choix qui porte préjudice à l'enfant dans une démarche malveillante de la part des parents.
Oui, ou alors une démarche qui peut être bienveillante de la part des parents, mais les prénoms qui ont été interdits, donc je pensais à des jumeaux qui s'appellent Joyeux et Patriste, ou à des enfants qui s'appelaient Fraise et Nutella, ou un enfant qui s'appelait Titeuf, ou un autre qui n'avait que des consonnes dans son prénom. Les parents voulait lui donner un beau prénom, mais ça avait été jugé comme contraire à son intérêt pour des raisons de moquerie ou de bonne identification.
Est-ce que la France est un pays où il y a en particulier une grande liberté de choix pour les parents par rapport à d'autres pays ?
Non, pas tous les pays, on va dire, de la sont héritiers des colonisations britanniques, ont un droit très très général et très libre sur le choix des prénoms, puisqu'on est dans ces pays pleinement propriétaire de son prénom et on peut en changer sur simple déclaration. La France, il y a encore l'idée que le prénom, il appartient à l'État et qu'on n'en est que dépositaire, en gros.
Alors, bon, le prénom le plus donné pour les filles en 2017, c'était Emma. Mais ça concerne que 1% des filles, puisqu'on l'a dit, il y a une telle diversité que du coup, il n'y a plus de valeur sûre et de prénoms qui dominent les autres. Anne-Laure Cellier, est-ce que vous avez le sentiment que cette liberté qui est donnée aux habitants en France fait qu'on peut arriver à parfois un délire des prénoms ou à une débauche de créativité ? Anne-Laure Cellier, est-ce que vous nous entendez ? Allô ?
Oui, tout à fait.
Oui.
Vous m'entendez ?
Oui.
Oui. Donc, tout à fait, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit le livre Le pouvoir des prénoms. C'est parce que avoir la liberté, c'est très bien. Je suis tout à fait fière de ma bonne.
Ah, on ne vous entend plus du tout, Anne-Laure Cellier, on a un problème. Alors, je vais me tourner vers nos invités parce que je voulais aussi vous poser cette question-là. Marie-Odile Merniak, est-ce que cette liberté-là, elle engendre une diversité qui va un peu trop loin ou pas ?
Elle engendre une diversité dans la création, c'est-à-dire que maintenant les prénoms qui sont donnés peuvent ne plus avoir d'histoire, c'est-à-dire ne plus être ancrés dans aucune culture.
C'est ça. Je ne posais pas la question sur les prénoms étrangers, bien évidemment, mais le fait effectivement
d'avoir... On peut associer maintenant des syllabes qui sortent de nulle part et qui vont créer un prénom.
Même si certains ont été retoqués, comme le disait Baptiste Coulon.
Exactement, mais pas... On peut aussi inventer des orthographes, c'est ce qui se fait aussi couramment maintenant, parce que les parents veulent que leur enfant soit unique, et ils se disent après tout, unique, pourquoi pas en choisissant le prénom qu'on aime bien, mais qui est un prénom classique, mais en transformant quelque chose. Et là, ça peut quand même pénaliser l'enfant qui, toute sa vie, sera obligé de signaler que son prénom, il s'appelle comme ça, mais attention, il y a un H en plein milieu.
Le prénom Lucas, par exemple, qui est énormément donné en France, qu'en fait, c'est le prénom italien pour désigner Luc, un apôtre, hein, en fait, très classique. Mais il y a énormément d'orthographes différentes.
Oui, on peut l'écrire avec un K, on peut l'écrire avec toutes les façons possibles. Ça s'écrit d'ailleurs, de toute façon, dans différents pays, de façon différente. Mais vous avez quelques aberrations, comme Kylian, en deux mots, K-I-2-L, et plus loin, Yann, les Bretons vont se sentir visés.
Anne-Laure Cellier, le prénom est devenu à vos yeux un projet individuel aujourd'hui pour l'enfant plutôt que l'acte de l'insérer dans une communauté comme c'était le cas autrefois. Je crois que les parents aujourd'hui consultent plus tellement l'entourage familial pour choisir le prénom. D'ailleurs, c'est tenu secret en général.
Tout à fait, c'est ce que je dénonce dans mon livre. Hein. J'ai écrit ce livre justement pour dénoncer cette liberté inouïe que les parents ont aujourd'hui, qui est très bien, Mais qui dit liberté inouïe dit nécessité de comprendre comment un prénom se pense et notamment comment les autres le pensent. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend assez bien en psychologie cognitive et sociale aujourd'hui. Et c'est dommage parce qu'il n'y avait aucune, enfin, cette connaissance n'était pas jusqu'à présent partagée avec le grand public. Et oui, bien sûr, un projet, un prénom, c'est un projet. Ce n'est pas juste un désir parental. C'est la première étiquette sociale qui va construire l'individu. Et ce qu'il me semble se passer aujourd'hui, c'est qu'on pense qu'effectivement, c'est une décision purement individuelle des parents qui ne regarde pas autrui, alors qu'un prénom doit d'abord être accepté par autrui. Il ne vous appartient déjà plus en tant que parent dès l'instant que vous apposez cela sur votre enfant. Et ce qu'on voit très bien, c'est qu'en fait, votre enfant va changer physiquement au contact des autres par le biais de son prénom. Hein, le prénom nous marque socialement dans le visage. Donc quand on voit la violence que cela signifie pour chaque individu, évidemment, il faut prendre la pleine conscience qu'un prénom, ce n'est pas juste un petit mot qui fait joli ou qui va faire plaisir aux grands-parents ou aux arrière-grands-parents. C'est un véritable projet pour l'enfant.
C'est vraiment un paradoxe pour des parents qui choisissent le prénom dans une véritable compétition d'imagination, d'originalité finalement, Baptiste Coulmont.
Alors, il y a une pression à choisir un prénom qui identifie bien, c'est-à-dire un prénom pas trop répandu. Parce que le prénom, il est utilisé dans la vie courante aujourd'hui beaucoup plus qu'avant. Avant, ce n'était pas grave qu'un cinquième des filles s'appelait Marie, puisque de toute façon, on les appelait Madame Dupont ou Madame Durand, et que les noms de famille en France sont très, très, très variés.
Dès l'école, d'ailleurs, les élèves, on les appelait par leur nom de famille.
Oui, hein. Et les garçons plus que les filles.
Vous, on vous appelait Coulmont, peut-être, ou peut-être pas, mais...
Mais les professeurs des écoles, on les appelait par leur nom de famille, aujourd'hui, c'est par leur prénom. Les personnes qui vous appellent, vous les appelez par leur prénom. Et donc, il y a une nécessité à ce que le prénom identifie bien, et donc qu'il ne soit pas trop répandu. Les parents ne peuvent pas échapper à ça. Si toutes les filles s'appelaient Marie, ça ne fonctionnerait pas, ça ne serait pas en accord. Donc, ce n'est pas nécessairement une recherche absolue de l'originalité ou de manière de se distinguer. C'est aussi qu'il faut que le prénom fonctionne et que si tous les garçons s'appellent Jean et les filles Marie, ben, le système dans lequel on vit aujourd'hui ne permettrait pas ce fonctionnement.
Alors, peut-on être discriminé à cause de son prénom? Les voisins, si vous portez un prénom étranger ou d'une autre communauté ou tout simplement un prénom un peu original, comment vous le vivez? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. On vous donne la parole dans quelques instants.
Tu verras, c'est ta chance. Les gens viennent ici et tout recommence. Toi t'arrives toute timide, perdu dans le décor, le cœur en l'air et les yeux qui dévorent toutes les saveurs de la ville qui t'appelait entre ses lignes. Solide et sans pitié, les passants s'amassaient dans ses allées, s'élançant comme une rivière, pressés de rejoindre son cœur. Comme un marin sur une plage,
Voyou Yel, les bruits de la ville chez 7 milliards de voisins sur RFI. On est en direct et on s'interroge sur les prénoms. Peuvent-ils être une source de discrimination quand on a un prénom différent de ceux qui nous entourent dans la communauté? C'est le cas pour les prénoms d'origine étrangère, mais ça peut être le cas aussi pour des prénoms qui n'ont pas les mêmes significations, qui n'ont pas les mêmes origines religieuses. Je vous lis le témoignage d'un voisin qui a posté au 33 1 84 22 71 71, ça c'est le téléphone WhatsApp. Vous pouvez aussi bien sûr poster des messages écrits sur WhatsApp. Daniel, il est togolais, il est à Niamey au Niger, et il nous dit j'ai un prénom chrétien, je suis en pays musulman, je ne connais aucune difficulté avec mes amis, dont la plupart sont musulmans, mais je fais attention à ce que je dis, je m'adapte à eux. Alors c'est parce qu'il a un prénom différent, mais c'est aussi parce qu'il est d'une origine, d'une religion différente. Je ne sais pas comment il faut le prendre là, dans ces cas-là. Ça fait un tout finalement pour vous, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Odile Merniak?
On se retrouve presque dans les premiers temps, au 4e ou 5e siècle, où quand on se faisait baptiser ou quand on entrait dans une religion, on changeait de prénom. Là, c'est presque ça. Les prénoms peuvent être... Dans certains pays, ce n'est pas le cas en France, mais dans certains pays, peuvent être des marqueurs religieux assez nets.
Et on est sur un continent, le continent africain, qui a tout à fait l'habitude de cela.
Oui.
Roger Mavoulot est Mondo Blogueur, on l'a au téléphone. Bonjour Mavoulot, Roger Mavoulot. Je vous donne le nom de votre patronyme, parce que c'est le nom de votre blog aussi.
Oui, c'est plutôt Mavoulot.
Oui, Mavoulolo, exactement. Alors, vous êtes installé au Sénégal et vous avez publié un billet, d'ailleurs, qui est à retrouver sur mondoblog.org, parce que vous vous interrogez sur cette question des prénoms, justement, comme marqueur identitaire.
Oui, j'ai effectivement publié ce billet parce que lorsque je me suis retrouvé aussi au Sénégal, mon prénom Yel n'était pas évident déjà à prononcer pour mes amis d'ici, et même qui venaient d'ailleurs aussi.
Au Sénégal.
Donc, je m'appelais Roger. Oui, au Sénégal.
Uh-huh.
Voilà. Donc j'ai dû sortir mon prénom de baptême, comme on dit Roger, pour que les gens puissent m'appeler plus facilement.
Et aujourd'hui, alors, comment vous voyez les choses? Je crois que vous êtes toujours installé au Sénégal, mais comment vous estimez la question du prénom?
Même pour moi, les prénoms ont une importance, je dirais capitale, parce que moi, dans mon ethnie aisée, du Togo et qui a au Ghana aussi, quand on entend votre prénom, on peut savoir à quel jour vous êtes né, lundi, mardi ou mercredi. Ou jeudi ou dimanche. Du coup, avec tous mes enfants, par exemple, j'ai essayé de faire en sorte de leur donner un prénom de chez moi, déjà qu'on vit à l'étranger. Comme ça, c'est comme un lien qui leur reste avec mon pays, le Togo.
Ça veut dire que donc, vous n'avez pas fait comme vos parents. Vous avez donné des prénoms élevés à vos enfants, ou votre épouse est Djoula, je crois?
Mon épouse est Djoula,
ouais.
De la Casamance du Sénégal, pas Djoula de la Côte d'Ivoire.
D'accord.
Donc, même si c'est après, il y a pour certains enfants, on a essayé de combiner. Ils ont un prénom aisé et un prénom Djoula. En plus du prénom de baptême. Comme ça, à chaque fois qu'on soit chez elle ou chez moi, les enfants peuvent se retrouver. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand nous sommes en vacances, soit chez elle ou chez moi au Togo, quand on donne un prénom comme Jacques, le matin, ou Joël, par exemple, les parents veulent toujours savoir, mais c'est quoi son prénom? Vous savez, au Togo, on avait les prénoms authentiques à l'époque. Voilà, de notre président et Adema. Donc, on demande, mais c'est quoi son prénom du pays, son prénom authentique? Et là, alors, on sort les Kossi, les Essi, les Abla et tout ce qui suit.
Merci Roger Mavoulot. Alors on peut retrouver donc le billet posté sur mondoblog.org. Merci d'avoir été en ligne avec nous, mondoblog.org, évidemment à consulter sans modération, communauté de plus de 700 blogueurs. On accueille Luc qui nous appelle à notre standard 33 1 84 22 71 71. Bonjour Luc.
Bonjour.
Luc, je crois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez entendu, ou certains des témoignages de nos auditeurs, non?
En même temps, il est très difficile pour nous en Afrique noire d'avoir absorbé tous les prénoms du monde entier. Et le monde entier n'a jamais pris un des prénoms africains. Mm. Alors quelque part, ça fait un peu bizarre, vous voyez. Alors qu'on a des super beaux prénoms. Des super beaux prénoms africains. Mm. Donc moi je suis d'accord qu'on puisse avoir des prénoms judéo-chrétiens ou islamo-arabes. C'est très bien, mais aussi nos prénoms africains, j'ai l'impression qu'on est tout simplement en train de les oublier. Alors que nous sommes multiculturels, on doit les sauvegarder, nos prénoms africains, nos prénoms roots, on doit les sauvegarder. Eh bien, quand on aura tout un de prénoms, sauf que nos prénoms vont s'éteindre finalement. D'ici quelques générations, on n'aura plus de prénoms africains.
Pourquoi le continent africain, démographiquement, là, on n'a pas trop d'inquiétude. Pourquoi les prénoms africains s'éteindraient donc?
On ne les utilise plus chez nous. Chez nous, la majorité des gens s'appellent Luc, s'appellent Luc, s'appellent Usman. On n'utilise plus de prénoms. Les prénoms ne sont plus utilisés.
C'est vrai qu'on a,
au fur et à mesure.
On avait cet auditeur, vous faites allusion à cet auditeur tout à l'heure au Tchad, hein, qui nous disait qu'il y avait une véritable tendance à l'arabisation des prénoms, qui n'était pas le cas.
À l'arabisation
ou à l'occidentalisation.
Absolument. Absolument. Et franchement, on a des beaux prénoms. Et surtout, ce qui je trouve un peu étrange, c'est que personne n'utilise nos prénoms dans le monde entier. Mais on a absorbé les prénoms du monde entier. Ouais. Mais nos prénoms... On a aussi des prénoms. On trouve des prénoms russes ici. On trouve des prénoms... Des Piotr, des Vladimir, des... Mais nos prénoms russes, qui les utilise? Et pourquoi on ne les utilise pas?
Des prénoms russes? D'où viennent ces prénoms russes?
Mais dans la population, vous trouverez des gens qui s'appellent Vladimir, qui s'appellent Piotr, qui s'appellent John, qui s'appellent... On a toutes sortes de prénoms en Afrique. On a absorbé les prénoms du monde entier, sauf les Chinois et les Indiens peut-être.
Oui, parce que plus compliqué aussi à prononcer. voilà. Merci Luc, en tout cas. Non, mais vous posez une vraie question qui est sûrement partagée dans diverses communautés. La peur finalement que l'extinction de certains prénoms signe aussi une extinction d'une forme, d'une extinction culturelle tout bêtement en fait.
Oui, mais il y a toujours des retours de balancier. Regardez les prénoms bretons qui ne se donnaient plus du tout à l'état civil et qui maintenant se sont extrêmement répandus. Donc voilà, peut-être qu'il y a une impression que les prénoms africains sont moins donnés, mais je suis persuadée qu'il suffit d'une ou deux générations pour qu'ils reviennent en force, parce que précisément, comme il le dit, ils sont jolis, et puis ils vont rappeler un grand-père, un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, et on a envie de porter à un moment une histoire familiale.
Le prénom aujourd'hui, alors on l'a dit au début d'émission, hein, avec vous notamment Anne-Laure Cellier, vous êtes toujours au téléphone avec nous, vous êtes spécialisée en psychologie sociale, vous avez publié Le pouvoir des prénoms, c'est vrai qu'il y a des choix qui aujourd'hui peuvent être considérés comme assez, on va dire, fantaisistes, hein, qui ne se raccrochent pas à une identité culturelle, qui ne se raccrochent pas au passé. D'ailleurs, je donnais comme exemple, on en discutait pendant la chanson, une maman peut appeler sa fille Tulipe parce qu'elle aime les tulipes. Et vous me disiez d'ailleurs Baptiste Coulmont, mais non, il peut y avoir un choix bien plus compliqué que ça quand on appelle sa fille Tulipe. Mais en l'occurrence, les parents souvent... ne réfléchissent pas aux conséquences et à l'histoire d'un prénom. Je vous pose la question à vous, Baptiste Coulmont.
Okay. Oui, mais pourquoi on réfléchit quand on s'achète un pull, on n'a pas besoin de réfléchir à l'histoire du pull et quand on
prend un prénom, c'est comme un pull alors, non?
Ben, c'est un choix qui est fait. Il n'est pas différent essentiellement des autres choix qu'on peut faire. Aujourd'hui, c'est un espace de lutte, c'est en lien avec l'identité nationale, on en fait quelque chose de très très important, mais quand même... Ce qui est beaucoup plus important, ce sont les ressources sociales dont les personnes disposent, le revenu, le patrimoine. Le prénom, c'est un petit supplément. Et donc les parents choisissent un prénom parce qu'ils l'aiment, c'est tout. Et les gens vont après établir des justifications a posteriori. Ah, Emma, parce que Emma Bovary. Et puis l'autre, c'est Emma parce que c'est le prénom dans Plus belle la vie. Donc les justifications, elles sont a posteriori, mais ils ont d'abord choisi un prénom qu'ils aiment. C'est la seule règle, aimer le prénom. On ne donne pas un prénom qu'on n'aime pas.
Anne-Laure Cellier, le prénom comme marqueur identitaire. Alors c'est vrai qu'en France, les communautés d'origine étrangère sont attachent de l'importance à appeler leurs enfants pour leur rappeler leurs origines, d'autant plus qu'ils n'habitent plus chez eux-mêmes. Le débat, hein, on est Anne-Laure Cellier, le débat qu'il y a eu. Comment vous l'avez jugé? Comment vous l'avez vous en tant que spécialiste de des prénoms quand il y a eu cette polémique entre Éric Zemmour et Absa Toussi, d'origine sénégalaise, citoyenne française, qui lui reprochait finalement, ou plutôt qui reprochait à sa maman de ne pas l'avoir appelée Corinne.
Bon, Éric Zemmour a ses raisons que seul Éric Zemmour comprend tout à fait. On peut comprendre une partie de la dénonciation, je pense, à voir effectivement avec l'originalité du prénom Absatou et le fait que ce prénom est culturellement distant par rapport à un Corinne. Mmh. Et effectivement, il y a beaucoup de science aujourd'hui, encore une fois, et j'en parle dans le livre, notamment d'une étude remarquable réalisée en 2014 par Marielle Valfort, une économiste française, qui montre très bien qu'il y a une discrimination par le prénom directement, c'est-à-dire indépendamment de toute question de religiosité ou non-religiosité ou d'appartenance à une ethnie spécifique, d'accord ? Donc au-delà du fait d'être musulman ou non, pratiquant ou non, et d'origine maghrébine ou d'origine juive ou non, il y a une discrimination par le prénom pur.
Sur les CV, par exemple ?
Exactement. Donc, elle a fait une étude avec plus de 6 CV en France, hein, qu'elle a envoyé avec des CV identiques où seul le prénom était modifié. Et notamment, il y avait des profils religieux et puis d'autres profils qui ne l'étaient pas, qui étaient de façon très explicite laïque. Et elle a trouvé, par exemple, qu'entre une personne d'origine de culture musulmane mais laïque qui s'appelle Mohamed et la même personne qui s'appelle Adam, Adam est discriminé 2 fois moins que Mohamed. Quand donc le prénom seul, indépendamment de toute différence socio-économique, justifie d'un comportement à l'embauche complètement différent. Et elle présume que Adam est moins discriminé parce qu'Adam est plus proche de nous. Effectivement, Adam est universel. Hein. On le retrouve, c'est un prénom juif, c'est un prénom chrétien.
Mais y compris quand le patronyme, lui, est d'origine étrangère ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le patronyme, dans ce cas, est Adad. Hein. Elle a pris un patronyme libanais, puisqu'au Liban, on retrouve les 3 religions. Donc, elle a gardé ce même nom de famille et elle n'a fait que modifier le prénom.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Marie-Odile Merniak, sur notamment les différentes stratégies des communautés étrangères quand elles prennent la nationalité française sur le territoire français ?
Oui, en tout cas au XXe siècle, j'avais étudié un peu les prénoms choisis au moment de la naturalisation. Voilà, choisis, on pouvait garder le sien, on pouvait le franciser ou on pouvait choisir un prénom complètement différent de celui que l'on portait à l'origine, au moment où on entrait dans le pays, où on demandait la naturalisation. Et les populations qui venaient d'Asie choisissaient massivement un prénom qui sonnait français, qui était ancré dans la culture locale, mais c'était le cas dans d'autres pays, c'est-à-dire c'était vraiment une forme de courtoisie vis-à-vis du pays. Où il s'installait.
Maintenant un deuxième prénom.
Tout en maintenant un deuxième prénom, ou des racines, ou des prénoms.
Issus du pays dont venait la famille. Un prénom
l'usage,
vietnamien, un prénom.
Voilà. À l'usage, on pouvait tout à fait continuer à utiliser en prénom usuel le prénom familial, mais pour l'état civil, on prenait un prénom qui devenait culturellement plus classique. D'autres populations le font beaucoup moins, effectivement.
Baptiste Coulmont ? Sur cette question des origines et du prénom, du choix du prénom par rapport aux origines, quand on n'habite pas sur le territoire relié à son patronyme.
Alors, ça dépend de l'âge à l'arrivée en France. Quelqu'un qui arrive en France à l'âge de 6 mois, 1 an, quand il va à 25 ans ou 30 ans donner naissance, il aura des goûts qui ressembleront aux goûts de la population générale. Donc, pour reprendre l'exemple, il choisira Adam plutôt que Mohamed. Mais quelqu'un qui arrive à l'âge de 25 ans, 30 ans en France, ses goûts sont déjà fixés. Il va pas, c'est pas parce qu'il est en France qu'il va trouver que Geoffroy ou Simon sont de jolis prénoms. Et donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'intégration structurelle, le métier que vous occupez, va avoir une influence. Et donc, les cadres immigrés choisissent beaucoup plus des prénoms qui ressemblent à ceux de la population française que ceux qui sont employés ou ouvriers. Donc la position sociale détermine en partie le choix du prénom, et mais c'est pas nécessairement lié à une volonté des uns et des autres d'être plus ou moins intégrés.
Oui, évidemment, vous vous situez là vraiment dans la... Vous voulez dépolémiquer, hein, la polémique qui a eu lieu il y a quelques mois et qui a flambé d'ailleurs outre mesure. Mais Anne-Laure Cellier, vous parliez de la discrimination par le prénom dans les CV. De toute façon, on peut rétorquer que sur le CV, il y a... d'autres choses qui discriminent les personnes, la photo qui n'est plus obligatoire, mais également l'adresse, hein, avant tout.
Bien sûr, toutes ces étiquettes, hein, on parle depuis tout à l'heure d'étiquettes, hein, le prénom est, vous parliez de plus tout à l'heure, alors c'est un petit peu cynique de le montrer comme ça, mais c'est une marque, hein, c'est une marque que l'on porte, un prénom d'ailleurs, on le dit. Mais sur un CV, beaucoup de choses vont jouer. Je pense que le rapport de cette étude scientifique a été de montrer que le prénom seul, c'est-à-dire indépendamment de toute religion, de toute pratique, de tout raccourci qu'on pourrait faire sur le plan sociologique, a une valeur discriminatoire.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Dites-nous quel est le prénom que vous portez, surtout si vous portez un prénom différent de celui de la communauté où vous vivez ou du pays où vous vivez. Une question aussi d'Alfred à Libreville, on y répondra tout à l'heure. Certains enfants sont nommés Juste, Patience, Innocent, Candide, en espérant qu'ils seront emplis de ces vertus plus tard. Est-ce que le prénom définit la personne? Quelle est l'influence du prénom finalement sur ce que nous devenons? 33 1 84 22 71 71. On y répond dans quelques instants.
Take it.
C'est Mutoni Drummer Queen chez 7 milliards de voisins sur RFI. On discute avec nos auditeurs et nos invités, Baptiste Coulmont, sociologue, spécialiste des prénoms, Marie-Odile Merniac, généalogiste, également spécialiste des prénoms, auteur de 365 prénoms expliqués, et puis Anne-Laure Cellier, spécialisée en psychologie sociale et auteur du pouvoir des prénoms. Et bien évidemment, vous avez la parole. Est-ce que nos prénoms nous définissent? Et puis plus largement aussi, on vous a interrogé sur... le fait de porter un prénom quand on est dans une communauté différente du prénom que l'on porte, ou dans un pays différent, ou dans une culture ou une religion différente. Et puis une question aussi, quand même, beaucoup d'auditeurs s'interrogent sur est-ce que le prénom marque notre personnalité. Certains enfants nous questionnaient, donc Alfred à Libreville au Gabon, sont nommés juste Patience, Innocent, Candide, en espérant qu'ils seront emplis de ses vertus plus tard. Est-ce que le prénom définit la personne? Vous nous donniez l'exemple d'une de vos voisines, Marie-Odile Merniac, qui s'appelle...
Oui, une petite fille qui s'appelle Merveille.
Oui.
Elle a 13 ans. Et puis,
elle va en entendre toute sa vie, quand même. Hein, parce que les jours où elle ne sera pas merveilleuse, on va lui dire.
Mais j'ai une cousine qui s'appelait Victoire. Et son nom de famille, c'était Lampérière, qui veut dire l'empereur. Et deux fois, au moment où elle était étudiante et où elle cherchait un travail, deux fois, elle a été convoquée par des DRH qui lui ont dit... on vous a fait venir tout simplement parce qu'on voulait voir la tête qu'avait une Victoire Lampérière, Victoire l'Empereur en quelque sorte. Voilà, ça posait un peu la petite fille, et peut-être que Merveille aura le même succès auprès des DRH, ouais. Je n'en sais rien.
Mais alors finalement, oui, la question de notre auditeur à Libreville, Anne-Laure Cellier, est-ce qu'on on finit par avoir la personnalité de son prénom, ou la tête d'ailleurs de son prénom? Il y a eu des expériences menées là-dessus, Anne-Laure Cellier? Ah, ça vient de couper. On a décidément un problème de ligne téléphonique. Ah, oui, est-ce que vous êtes bien en ligne avec nous, Anne-Laure Cellier? Est-ce que vous avez entendu ma question?
Non, dites-moi.
Oui, je posais la question. Est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire avoir la tête de son prénom ou l'identité de son prénom?
Alors, ça veut dire littéralement que nous sommes capables de reconnaître le prénom exact, le prénom correct d'une personne sans la connaître, au-delà du facteur chance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si vous portez le prénom Cécile et que je demande à 100 personnes qui ne vous ont jamais vu de décider si vous vous appelez Cécile ou je leur donne 3, 4 autres prénoms, oui, qui ont été donnés avec la même fréquence autour de l'année de votre naissance, eh bien, il y a un nombre significativement plus élevé que le hasard de gens qui vont deviner correctement que vous vous appelez Cécile.
Rien qu'en regardant la tête de la fameuse Cécile.
Le visage.
Le visage.
Hein, donc, le visage seul. Suffit à deviner votre prénom. Donc, vous avez un tatouage, littéralement, de votre prénom dans le visage.
Comment on explique ça?
Que vous soyez une Cécile, une Marie, un Mohamed ou une Absatou. Ça n'a rien à voir avec l'originalité du prénom. Mm. Nous sommes tous marqués. Et ce n'est pas que social. D'accord? Ça va dépasser le sociologique pour devenir du psychologique.
Comment on explique ça?
Alors, on explique ça très simplement en psychologie sociale. Ce sont des phénomènes très connus. D'ailleurs, les anthropologues trouvent que ça tombe sous le sens. Mais les façons dont une Cécile va ressembler à Cécile, ben, c'est que nous avons tous des stéréotypes de prénoms. Quand vous pensez à une Marie ou que vous pensez à une Jennifer, vous n'êtes pas capable de les dessiner, mais vous avez une évocation de ce à quoi ces personnes peuvent ressembler. D'accord, donc, ce n'est pas qu'elles sont blondes ou brunes, mais vous avez quand même une notion. Jennifer et Marie, ben, ça n'a pas la même tête. Et ce qui est le plus drôle, c'est que Marie ou Jennifer, le matin, quand elles se préparent, eh bien, elles tendent vers ce stéréotype. Mmh. Donc, si on pense qu'une Marie, eh ben, elle a les cheveux en chignon bien relevés, Marie va peut-être se faire une coiffure assez sage par rapport à Jennifer, qui aura plus tendance à porter ses cheveux en crinière à la Bardot. Donc, ce sont ces stéréotypes qui nous animent et qui font que nous tendons vers notre stéréotype. Donc, je m'appelle Anne-Laure, je tends vers Anne-Laure. Il n'y a rien de grave à ça. Baptiste tend vers Baptiste et Marie-Odile tend vers Marie-Odile. Ce qui est étonnant, c'est que même un ordinateur, évidemment, est capable de deviner votre prénom. Ce qui est assez effrayant, d'ailleurs. Donc, dans notre travail de chercheur, nous avons, avec une équipe, montré 100 000 photos de Français à un ordinateur. Et en utilisant l'intelligence artificielle, nous avons été capables de démontrer que l'ordinateur, pour chacun des prénoms, était capable de deviner, au-delà du facteur chance, encore une fois, le vrai prénom de la personne en photo. D'accord ? Et c'est une machine. Donc, ça montre bien que c'est dans le visage de la personne qu'il y a quelque chose qui trahit le prénom. Alors, pourquoi est-ce que les anthropologues trouvent que ça tombe sous le sens? Parce que dans certaines tribus anciennes, hein, comme les Burgondes en Europe, ou certaines tribus pré-Incas au sud de l'Amérique, les gens étaient prêts à se tatouer. Hein. On voit ça encore chez les Maoris, par exemple, en Nouvelle-Zélande aujourd'hui, ou chez les Burgondes, ils se sont mis sur les crânes pour montrer leur appartenance à leur tribu.
Hein. Donc, quand on pense que on est capable de se déformer le crâne pour montrer qu'on appartient à une tribu, eh bien, de la même façon, on est capable de changer son visage pour montrer pas blanche, hein, pour montrer qu'on est bien une Cécile, de telle sorte que quand vous vous présentez comme une Cécile à d'autres personnes qui ne vous connaissent pas, eh bien, c'est pas surprenant.
Bon, ça laisse quand même, je sais pas, assez sceptique, moi, je trouve, Marie-Odile Merniak, non ? Même si, effectivement, bon, l'ordinateur a deviné, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Il y a parfois à la maternité des mamans qui hésitent entre deux prénoms, qui attendent de voir le bébé et qui disent « Ah non, finalement, elle n'a pas une tête de Camille, je vais plutôt l'appeler Emma.
» Allez, on donne la parole à un dernier auditeur, Mehdi. Vous nous appelez de Douala au Cameroun. Bonjour Mehdi.
Bonjour.
Je précise que vous êtes marocain.
Je suis marocain, résident à Douala, ouais, effectivement.
Voilà, c'est ce que vous avez précisé au standard. On vous écoute sur les prénoms.
Ben voilà, moi je suis un tuto, mon pseudo c'est Alamowski, avec Y à la fin, et il y a trois jours j'ai fait un post sur les prénoms au Maroc, j'ai passé en revue une centaine de prénoms, et ça a eu un succès viral incroyable, simplement parce que ça pose des questions, on va dire, sociétales intéressantes, notamment le déterminisme social dans le choix du prénom. Et ça, il y a deux, trois tendances que ça peut refléter sur la société marocaine, notamment, on va dire, l'orientalisme un peu, où des prénoms purement marocains se sont transformés petit à petit au regard de l'influence que le Moyen-Orient a sur la société marocaine.
À quoi vous
comme,
pensez
on va dire, ben, Slimane, qui est un prénom purement marocain, et il y a de plus en plus de Souleymane, ou Sakina, qui est un prénom purement marocain, c'est au fil du temps transformé en Soukaina. Il y a aussi le choix de prénom, parce qu'il y a la société marocaine, il y a des courants conservateurs et des courants, on va dire, un peu plus occidentaux. Vous avez des prénoms où on veut vraiment marquer le fait que son enfant est bien ancré dans la religion musulmane, comme Mohamed, comme Aya, comme des choses comme ça.
Finalement, vous posez la même question qu'un auditeur tout à l'heure qui se demandait si, paradoxalement d'ailleurs, par rapport au poids démographique de l'Afrique, les prénoms africains n'allaient pas disparaître. Les prénoms, alors là, il parlait de l'Afrique, des prénoms africains subsahariens. Vous posez les mêmes questions d'une certaine manière, avec beaucoup d'humour. Et lui-même, d'ailleurs, ne s'en alarmait pas outre mesure, mais posait une vraie question.
Mais je pense que ce qui se passe en Afrique, c'est qu'on est à contre-courant de ce qui se passe dans les pays occidentaux, où eux, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus créatifs dans leurs prénoms, et que nous devenons de plus en plus mainstream dans les prénoms qu'on choisit. C'est-à-dire, il y a des prénoms au Maroc qui sont en train d'exploser, comme Inès, comme Ryan, comme Adam, où c'est des prénoms qui sont très, on va dire, occidentaux compatibles.
L'influence de la télé aussi.
Exactement, oui, l'influence de la télé, bien sûr. Et c'est des prénoms qui, et à contrario, il y a beaucoup de prénoms qui sont en train de disparaître au Maroc, qui sont en train de tomber en désuétude, alors qu'ils renvoient réellement aux racines de notre pays.
Ouais. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir appelés, Mehdi. Donc, on vous retrouve sur Twitter, hein, à la mosquée. On a bien, d'ailleurs, ça pourra peut-être donner de l'imagination pour un nouveau prénom, qui sait, hein, à la mosquée. J'en ai jamais vu de mon côté. Merci, Mehdi, de nous avoir appelé. Baptiste Coulmont, on vous laisse le mot de la fin sur alors certains pays qui débordent d'imagination avec parfois, on va dire, quelques dérives, et puis d'autres pays, d'autres continents qui se resserrent sur ce qu'appellerait Mehdi des choix mainstream. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Il y a une circulation internationale des prénoms. On trouve des prénoms polynésiens en France, des prénoms turcs au Maroc, des prénoms anglo-saxons je ne sais pas où, au Danemark.
Voilà, il faut feuilleter vos ouvrages en tout cas. Vous avez publié Sociologie des prénoms, Baptiste Coulmont, Marie-Odile Merniak, généalogiste, auteur de 365 prénoms expliqués. Il y en a beaucoup plus en France. Et Anne-Laure Cellier a publié Le pouvoir des prénoms, édition Larousse. Merci à vous tous, les voisins et les voisines, pour vos appels. On se retrouve demain. Je laisserai mon micro à Florène Mandat.